Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée. On plonge aujourd'hui en Syrie, plus précisément du côté d'Alep.
Alep.
Ouais, pour essayer de comprendre une situation qui est loin d'être simple. On va s'appuyer pour ça sur une analyse, je trouve vraiment percutante, de Khaled Hamadeh,
Oui.
président de l'Institut international d'études géopolitiques.
Tout à fait.
Donc un sacré expert en la matière.
Ah oui. C'est quelqu'un qui a une vision assez fine de la situation au Moyen-Orient de manière générale.
Ouais, et puis il a publié cet article sur le portail L'opinion de la jeunesse.
Oui, absolument.
Alors c'est intéressant parce que c'est un média qui est destiné à la fois aux jeunes, mais aussi à un public plus large.
Tout à fait.
Donc l'idée, c'est vraiment de vulgariser ces questions géopolitiques complexes et de les rendre accessibles à tous.
Oui, et puis l'opinion de la jeunesse a souvent des contributeurs de qualité.
Ouais, c'est ça.
Donc c'est une source qu'on peut considérer comme fiable et intéressante.
Alors, justement, dans cet article, Hamadeh s'intéresse à l'offensive d'Ayat Tahrir-Hicham.
HTC.
Voilà.
Pour les intimes.
Sur l'aide du régime de Bachar al-Assad.
Oui?
Et c'est là que je me suis dit, ah tiens, c'est intéressant parce que c'est une question que je me posais. Comment se fait-il que cette offensive semble porter ses fruits?
Oui, c'est une excellente question.
Qu'est-ce qui fait la force de HTC sur le terrain?
Parce qu'au départ, on pourrait se dire, bon, c'est un groupe rebelle parmi tant d'autres,
Ouais.
face à une armée régulière,
Ouais.
face à un régime qui est soutenu par des puissances internationales, et
Hein?
pourtant ils arrivent à progresser, à menacer Alep, qui est une ville stratégique.
Ouais.
Donc il y a forcément quelque chose à creuser là,
Ouais.
pour comprendre ce qui se passe réellement.
Ouais, c'est ça. Alors justement, pour répondre à cette question, il faut déjà bien comprendre qui est HTC.
Oui, absolument. Alors, HTC, c'est un groupe un petit peu particulier. C'est l'ancien Jabhat al-Nusra,
Ah oui, quand même.
qui était une branche d'Al-Qaïda en Syrie.
D'accord.
Donc, on n'est pas sur un groupe de rebelles
Ouais.
modérés. On est sur un groupe qui a un passif assez lourd, avec des actions parfois très violentes, et qui a essayé ces dernières années de se refaire une image, de se présenter comme une force plus modérée, plus acceptable aux yeux de la communauté internationale.
En se détachant d'Al-Qaïda.
Voilà, en se détachant d'Al-Qaïda officiellement,
Ouais.
en changeant de nom, en adoptant une nouvelle stratégie.
D'accord.
Mais il faut quand même garder en tête ce passé,
Ouais.
parce que ça permet de comprendre certaines de leurs actions,
Ouais,
certaines de leurs alliances.
c'est ça.
Et puis, ça nous permet de ne pas tomber dans le piège de la propagande,
Oh.
hein, parce qu'aujourd'hui, HTC essaye de se présenter comme une alternative crédible au régime Assad.
Ouais.
Il contrôle une partie du territoire syrien,
Ouais.
notamment la région d'Idlib, où ils ont mis en place ce qu'ils appellent le gouvernement de salut syrien.
Ah ouais, quand même, le gouvernement de salut.
Vous voyez, c'est un nom qui est déjà plus acceptable,
Ouais.
qui est plus consensuel.
On sent la volonté de se donner une certaine légitimité.
Exactement. C'est ça l'objectif.
Hein?
Se présenter comme une force d'ordre,
Ouais.
comme un gouvernement en exil.
Ouais.
Et puis, ils ont aussi une stratégie qui est assez intéressante.
Ouais.
C'est ce qu'on appelle le pragmatisme calculé.
D'accord.
C'est-à-dire qu'ils essaient de s'adapter aux circonstances,
Ouais.
de jouer sur plusieurs tableaux.
Ouais.
D'une part, ils cherchent à attirer l'attention de certains acteurs internationaux,
Ouais.
notamment la Turquie,
Ouais.
qui les soucie en sous-main.
D'accord.
Et d'autre part, ils exploitent les faiblesses du régime d'Assad.
Ah oui, justement, parlons-en de ses faiblesses. Parce que Hamadeh, dans son article, il souligne l'état catastrophique de l'économie syrienne.
Oui.
Le moral en berne des troupes d'Assad. On imagine que ça n'aide pas vraiment à maintenir le pouvoir.
Effectivement, l'économie syrienne est exsangue
Ouais.
après des années de guerre.
Ouais.
Les sanctions internationales pèsent lourd.
Ouais.
La corruption est endémique.
Ouais.
Donc tout ça, ça crée un climat de mécontentement au sein de la population.
Oui.
Et même au sein de l'armée, on voit de plus en plus de désertions,
Ah ouais.
des problèmes de discipline.
D'accord.
Donc le régime est fragilisé de l'intérieur.
Ouais, c'est un peu un château de cartes qui menace de s'écrouler.
Exactement. Et en plus de ça, il y a le contexte international qui joue en défaveur d'Assad.
Ouais.
La Russie, qui était son principal allié,
Ouais.
est aujourd'hui occupée en Ukraine.
Ouais.
Donc elle a réduit sa présence militaire en Syrie.
D'accord.
Elle a moins de moyens à consacrer à ce conflit.
Ouais.
L'Iran, qui est un autre allié important d'Assad,
Ouais.
est lui-même sous
Ouais.
pression d'Israël,
Ouais.
qui cherche à limiter son influence au Moyen-Orient.
Ouais.
Donc l'Iran a du mal à maintenir son soutien à Assad au même niveau qu'avant.
D'accord.
Et puis il y a le Hezbollah,
Ouais.
qui est un allié Kledasa de Libor,
Oui.
mais qui a lui-même été affaibli par des années de combat en Syrie.
Ouais.
Donc on voit que les soutiens d'Assad s'effritent.
Ouais.
Petit à petit.
Assad se retrouve donc un peu isolé face à un HTC qui semble bien décidé à en profiter.
Exactement. HTC a bien compris que le rapport de force était en train de changer.
Ouais.
Et ils essaient d'en tirer profit au maximum.
Mais est-ce que c'est la seule explication à leur succès?
Non, il y a aussi le jeu trouble de certains acteurs régionaux.
Ah oui, c'est vrai, on en parlait tout à l'heure.
La Turquie, par exemple, se soutient HTC en sous-main.
Ouais.
Même si elle ne l'affiche pas ouvertement.
C'est la fameuse realpolitik.
Voilà, chacun essaye de tirer son épingle du jeu.
On a l'impression que la Turquie est partout en ce moment.
C'est vrai qu'ils sont très actifs sur la scène internationale. Ah. Ils ont des intérêts stratégiques importants au Moyen-Orient.
Ouais.
Et ils n'hésitent pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour les défendre.
D'accord.
Donc en Syrie, ils soutiennent HTC parce que ça leur permet de contrer l'influence kurde.
D'accord.
Les Kurdes sont un groupe ethnique qui est présent en Syrie, en Irak, en Turquie, en Iran,
ouais,
et qui aspire à l'indépendance.
Ouais.
Donc la Turquie voit d'un très mauvais œil la montée en puissance des Kurdes en Syrie,
ouais,
et elle soutient HTC pour les affaiblir.
D'accord.
Donc c'est un jeu d'alliance et de contre-alliance qui est très complexe.
Ouais.
Et puis il y a Israël,
oui,
qui joue aussi un rôle important dans cette région.
Ouais.
Israël a une politique très claire vis-à-vis de l'Iran,
oui,
c'est de limiter son influence au maximum.
D'accord.
Donc Israël soutient discrètement les ennemis de l'Iran en Syrie.
Donc HTC.
Notamment HTC, oui.
D'accord.
Parce que HTC est un ennemi juré de l'Iran.
Ouais.
Et Israël voit d'un bon œil l'affaiblissement de l'axe Iran-Assad-Hezbollah.
D'accord.
Donc Israël joue un peu le rôle du...
Du joueur d'échecs.
Voilà, du joueur d'échecs.
Ouais.
Qui anticipe les coups de ses adversaires et qui essaye de les contrer.
Ouais, c'est fascinant de voir comment tous ces acteurs s'entremêlent.
Oui, c'est ça qui est passionnant au Moyen-Orient.
Ouais.
C'est une région où les enjeux sont multiples.
Ouais.
Où les acteurs sont nombreux.
Ouais.
Et où les alliances sont mouvantes.
Avec des intérêts parfois contradictoires.
Exactement.
Et au milieu de tout ça, HTC qui avance à ses pions.
Oui, HTC essaye de tirer profit de cette situation chaotique.
Ouais.
Pour étendre son influence.
Et ce qui complique encore les choses, c'est le flou qui entoure les accords entre Moscou, Ankara et Damas.
Oui, c'est un véritable imbroglio diplomatique.
Ouais.
On ne sait pas vraiment qui soutient qui.
Ouais.
Quels sont les accords qui ont été conclus en coulisses?
Ouais.
Et ce manque de clarté, c'est une aubaine pour HTC. On comprend mieux pourquoi leur offensive progresse.
Oui.
Mais quelles sont les conséquences de tout cela?
Alors, c'est là que les choses se corsent.
Ouais.
Parce que la progression de HTC, elle a des implications majeures pour la Syrie et pour la région.
Qu'est-ce que risque-t-il de se passer si HTC continue sur sa lancée?
Alors, pour Assad, la perte d'Alep ou d'autres positions stratégiques pourrait être fatale.
Ah ouais, quand même. Ouais,
symboliquement, mais... c'était une défaite terrible.
Ouais.
Alep, qui était un des piliers du régime,
ouais,
qui tombe aux mains des rebelles, ce serait un coup très dur pour Assad.
Oui, c'est certain.
Ça pourrait précipiter sa chute.
D'accord.
Et puis, au niveau régional, les conséquences seraient aussi importantes.
Oui, quelles seraient les retombées?
L'instabilité en Syrie alimente déjà les rivalités entre la Turquie, l'Iran et Israël.
Oui.
Et la progression des HTC ne ferait qu'aggraver les choses.
D'accord.
La Turquie verrait ça d'un bon œil.
Oui.
Parce que ça affaiblirait les Kurdes.
D'accord. L'Iran verrait ça d'un très mauvais œil.
Ouais.
Parce que ça renforcerait un groupe sunnite,
ouais,
qui est hostile à l'Iran chiite.
Ouais.
Et Israël verrait ça d'un œil mitigé.
D'accord.
D'un côté, il serait content de voir l'Iran zébli.
Ouais.
Mais de l'autre côté, il ne voudrait pas voir un groupe djihadiste,
ouais,
se renforcer à leurs frontières.
Donc tout le monde est un petit peu sur ses gardes.
Exactement.
Personne n'est vraiment ravi de voir HTC prendre du pouvoir.
Voilà.
Même si certains en profitent pour affaiblir Assad.
C'est un peu l'arroseur arrosé.
Ouais.
On essaie d'affaiblir un ennemi.
Ouais.
Et on se retrouve avec un autre potentiellement plus dangereux.
Ouais.
Qui prend sa place.
Et le pire, c'est que la Syrie semble se diriger vers une fragmentation encore plus importante.
Oui, c'est le risque majeur.
Ouais.
Que la Syrie éclate en plusieurs morceaux.
Ouais.
Avec des zones d'influence contrôlées par différents acteurs.
Ouais. Un scénario catastrophe en somme. Oui, ce serait une catastrophe pour la Syrie.
Ouais.
Mais aussi pour la région.
D'accord.
Parce que ça créerait un vide de pouvoir,
ouais,
qui serait exploité par les groupes terroristes,
ouais,
par les puissances étrangères.
Ouais.
Donc ce serait vraiment un scénario du pire.
Et justement, Amadé nous invite à regarder du côté de la Turquie pour comprendre ce qui se joue.
Oui.
Ils comparent leur rôle en Syrie à leur intervention au Karabakh.
Oui.
En soulignant leur pragmatisme et leur opportunisme.
Tout à fait.
C'est vrai qu'on a l'impression qu'ils sont partout en ce moment.
La Turquie est une puissance régionale qui a des ambitions.
Ouais.
Et qui n'hésite pas à les afficher.
Ouais.
Donc, en Syrie comme au Karabakh, ils cherchent à défendre leurs intérêts stratégiques.
Ouais.
Et ils le font avec beaucoup de pragmatisme.
D'accord.
C'est-à-dire qu'ils s'adaptent aux circonstances.
Ouais.
Ils changent d'alliance si nécessaire.
Ouais.
Ils utilisent la force quand c'est nécessaire.
Ouais.
Mais ils n'hésitent pas non plus à négocier quand c'est possible.
C'est une politique étrangère assez déroutante.
Oui, c'est vrai qu'ils sont difficiles à cerner.
Ouais.
Mais en même temps, c'est une politique qui était efficace.
Ouais, on ne peut pas leur enlever ça.
Ils obtiennent souvent ce qu'ils veulent.
Ouais.
Donc, c'est une puissance avec laquelle il faut compter.
Ouais.
Et qui va continuer à jouer un rôle important au Moyen-Orient.
Alors, pour le coup, la situation au Maghreb que Amadeh évoque ensuite semble bien différente.
Oui.
Malgré des tensions récurrentes entre le Maroc et l'Algérie.
Oui.
La diplomatie a permis de préserver une certaine stabilité.
Oui, tout à fait. Le Maghreb, c'est une région qui a connu beaucoup de conflits,
ouais.
Mais qui a aussi une tradition de dialogue,
ouais.
De coopération.
Ouais.
Donc, malgré les tensions entre le Maroc et l'Algérie,
ouais.
On a réussi à éviter une escalade majeure.
D'accord.
Et ça, c'est grâce à la diplomatie.
Ouais.
Aux efforts des deux pays pour maintenir un dialogue.
Ouais. Amadeh prend l'exemple du Maroc,
oui.
Qui a su renforcer sa souveraineté sur le Sahara occidental,
oui.
Et encourager une coopération régionale proactive.
Tout à fait. Le Maroc a adopté une stratégie très intelligente.
Ouais.
Ils ont misé sur le développement économique,
ouais.
Sur la stabilité politique,
ouais.
Et sur la coopération régionale.
Ouais.
Et ça leur a permis de renforcer leur position au Maghreb.
Ouais, c'est une approche qui privilégie les solutions pacifiques et durables.
Exactement. Et c'est un exemple à suivre pour d'autres régions du monde.
Ce qui contraste fortement avec le chaos qui règne en Syrie.
Oui, malheureusement.
Mais au fond, quel avenir pour la Syrie?
C'est la grande question.
Est-elle condamnée à la fragmentation et à l'instabilité?
C'est difficile à dire.
Ouais.
Amadeh souligne que la Syrie se trouve à un tournant.
Ouais.
Face à un équilibre incertain.
Ouais.
Les grandes puissances, malheureusement, semblent plus préoccupées par leur propre jeu de pouvoir que par la stabilité durable de la région.
Ouais, c'est assez déprimant, il faut l'avouer.
Oui, c'est vrai que la situation est préoccupante.
Ouais.
Mais il faut garder espoir.
Ouais, mais est-ce qu'il y a une lueur d'espoir?
Amadeh estime que oui.
Ouais.
Il pense que la Syrie, malgré ses fractures profondes,
ouais.
Pourrait encore bénéficier d'approches alternatives.
D'accord.
Où les intérêts stratégiques,
ouais.
S'aligneraient sur une réelle volonté de paix durable.
Un peu comme au Maghreb en somme.
Oui, c'est l'idée.
D'accord.
Il faut bien sûr rester prudent. Mais l'histoire nous montre que même dans des contextes extrêmement tendus,
oui.
Des solutions visionnaires,
ouais.
Et diplomatiques,
et oui.
Peuvent l'emporter sur les logiques de confrontation.
Ouais.
Donc il faut continuer à travailler pour la paix,
ouais.
Même si ça semble difficile.
Ouais.
Il faut continuer à croire que c'est possible.
On veut y croire. Mais si ces solutions ne sont pas trouvées, quel est le risque?
Le risque, c'est une fragmentation irréversible de la Syrie.
Ouais.
Avec des conséquences potentiellement désastreuses pour toute la région.
Ouais.
C'est un pari risqué.
Ouais.
Mais pas impossible.
D'accord.
Il faudrait pour cela que les acteurs internationaux fassent preuve d'une volonté politique forte.
Oui.
Et acceptent de mettre de côté leurs intérêts à court terme.
Ouais.
Pour privilégier la stabilité à long terme.
C'est un peu l'arbre qui cache la forêt, on dirait.
Oui.
Tout le monde se focalise sur ses propres objectifs.
Oui.
Sans réaliser que l'instabilité de la Syrie finit par nuire à tout le monde.
C'est exactement ça.
Ouais.
On est dans une logique de chacun pour soi.
Oui.
Qui est extrêmement dangereuse.
Ouais.
Il faut absolument sortir de ce cercle vicieux.
Ouais.
Si on veut éviter que la situation ne dégénère encore plus.
Mais concrètement, comment faire? On a l'impression que la Syrie est devenue un immense champ de bataille.
Oui.
Où s'affrontent des puissances régionales et internationales.
C'est vrai, la situation est extrêmement complexe.
Ouais.
Mais il y a quand même des pistes de réflexion.
Ouais.
Par exemple, on pourrait imaginer un processus de dialogue inclusif.
Ouais.
Qui réunirait toutes les parties prenantes au conflit.
Ouais.
Y compris les représentants des différentes communautés syriennes.
Ouais, un peu comme une grande table ronde.
Voilà.
Pour essayer de trouver un terrain d'entente.
Exactement. Bien sûr, ce serait un processus long
Ouais.
difficile,
Yeah.
avec de nombreux obstacles à surmonter.
Ouais.
Mais il faut bien commencer quelque part.
Ouais.
On ne peut pas rester les bras croisés
Non.
face à cette tragédie humaine.
Ouais. Entendre quelle est la situation sur le terrain.
Alors, sur le terrain, la situation est toujours très tendue.
Ouais.
Les combats continuent.
Ouais.
HTC continue de progresser.
Est-ce que HTC continue de progresser?
Oui, malheureusement.
Ouais.
Il semble déterminé à prendre le contrôle d'Alep.
Ouais.
Ce qui serait un tournant majeur dans le conflit. Le régime d'Assad est de plus en plus fragilisé. Et ses alliés ne sont pas en mesure de lui apporter un soutien suffisant.
Est-ce que cela veut dire qu'on se dirige vers une victoire de HTC?
Il est encore trop tôt pour le dire.
Ouais.
La situation est très volatile.
Ouais.
Et de nombreux facteurs peuvent encore influencer le cours des événements.
Ouais.
Mais il est clair que HTC est en position de force aujourd'hui
Oui.
et que la situation est très préoccupante
Oui.
pour la Syrie
Oui.
et pour la région. Et quel est le rôle de la communauté internationale dans tout ça? Est-ce qu'elle peut faire quelque chose pour empêcher la situation de dégénérer?
On a l'impression qu'elle est plutôt impuissante, voire indifférente.
Oui.
Les appels à la paix et au dialogue ne semblent pas avoir beaucoup d'écho.
C'est vrai qu'on attend une réaction plus ferme de la part de la communauté internationale.
Oui.
Mais en attendant, ce sont les civils syriens qui paient le prix fort de ce conflit.
Ouais.
Des centaines de milliers de morts, des millions de déplacés.
C'est une véritable tragédie humanitaire.
Absolument.
Et l'accès aux soins et à l'aide humanitaire est extrêmement difficile dans certaines régions.
Oui, la situation est critique.
Ouais.
Le conflit a créé un climat de peur et de suspicion qui rend toute réconciliation très difficile.
Oui.
On a l'impression que la Syrie est devenue une zone de non-droit où la violence règne en maître.
Amadé évoque justement cette comparaison avec le Maghreb, où le Maroc a réussi à maintenir une certaine stabilité malgré les tensions avec l'Algérie.
Oui.
C'est un exemple intéressant, non?
Oui, tout à fait. Amadé met en avant la diplomatie proactive du Maroc,
Ouais.
qui a su renforcer sa souveraineté sur le Sahara occidental et encourager la coopération régionale.
Oui.
C'est une approche qui privilégie les solutions pacifiques et durables.
Ce qui contraste fortement avec la situation en Syrie, où les rivalités et les intérêts stratégiques semblent prendre le dessus sur la recherche d'une solution pacifique.
Exactement. On a l'impression qu'en Syrie, les grandes puissances jouent une partie d'échecs géopolitiques,
Oui.
sans vraiment se soucier des conséquences pour la population.
Alors au final, quel avenir pour la Syrie est-elle condamnée à la fragmentation et à l'instabilité?
Amadé conclut son analyse en soulignant que la Syrie se trouve à la croisée des chemins face à un avenir incertain.
Oui.
Il estime que les grandes puissances ont un rôle crucial à jouer, mais qu'elles doivent changer de cap et privilégier la stabilité durable au détriment des logiques de puissance.
C'est un peu comme s'ils jouaient aux apprentis sorciers sans mesurer les conséquences de leurs actions.
Oui.
Ils doivent prendre conscience que l'instabilité de la Syrie finit par nuire à tout le monde.
C'est ça, il faut sortir de cette logique de chacun pour soi qui est extrêmement dangereuse.
Oui.
Et pour ça, il faut que les acteurs internationaux fassent preuve de volonté politique et acceptent de mettre de côté leurs intérêts à court terme.
Mais concrètement, comment faire pour ramener la paix en Syrie? On a l'impression que la situation est inextricable.
Il n'y a pas de solution miracle, c'est certain, mais Amadé suggère un processus de dialogue inclusif qui réunirait toutes les parties prenantes au conflit, y compris les représentants des différentes communautés syriennes.
Un peu comme une grande table ronde pour essayer de trouver un terrain d'entente.
Oui, c'est l'idée, bien sûr, ce serait un processus long et difficile avec de nombreux obstacles à surmonter, mais il faut bien commencer quelque part.
Et en attendant, quelle est la situation sur le terrain? Est-ce que HTC continue de progresser?
Malheureusement, oui, il semble déterminé à prendre le contrôle d'Alep, ce qui marquerait un tournant majeur dans le conflit.
Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont en passe d'en remporter la victoire?
Il est encore trop tôt pour le dire, la situation est très volatile et de nombreux facteurs peuvent encore influencer le cours des événements, mais il est clair que HTC est en position de force aujourd'hui.
Face à cette progression de HTC, quel est le rôle de la communauté internationale? Est-ce qu'elle peut réellement faire quelque chose pour empêcher la situation de dégénérer davantage?
C'est la grande question, hein. Pour l'instant, on a plutôt l'impression d'une certaine impuissance, voire d'une indifférence face à la tragédie qui se joue en Syrie. Les appels à la paix au dialogue restent lettre morte.
Ouais, c'est vrai que l'on attend une réaction plus forte de la part des grandes puissances. Mais pendant ce temps, ce sont les civils syriens qui paient le prix fort de cette inaction. On parle de centaines de milliers de morts, de millions de paix placés.
Absolument, c'est une véritable catastrophe humanitaire. Et l'accès aux soins et à l'aide humanitaire est extrêmement difficile dans certaines régions. Le conflit a créé un climat de peur et de suspicion qui rend toute réconciliation extrêmement complexe.
Amadé souligne d'ailleurs un point intéressant en comparant la situation en Syrie avec celle du Maghreb. Il met en avant le rôle du Maroc, qui, malgré les tensions avec l'Algérie, a réussi à maintenir une certaine stabilité grâce à une diplomatie proactive.
Oui, c'est un exemple intéressant qui montre qu'il est possible de privilégier le dialogue et la coopération, même dans des contextes géopolitiques complexes.
Le Maroc a notamment mis l'accent sur le renforcement de sa souveraineté sur le Sahara occidental et sur la coopération régionale favorisant des solutions pacifiques et durables.
Ce qui contraste fortement avec la situation en Syrie où les rivalités et les intérêts stratégiques des uns et des autres semblent prendre le pas sur la recherche d'une solution pacifique.
Exactement. On a l'impression qu'en Syrie, les grandes puissances jouent une partie d'échec sans se soucier réellement des conséquences pour la population syrienne. C'est une logique de puissance qui est malheureusement très présente dans les relations internationales.
Alors au final, quel avenir pour la Syrie? Est-elle condamnée à la fragmentation et à l'instabilité?
Amadé conclut son analyse en soulignant que la Syrie se trouve à un moment charnière face à un avenir incertain. Il estime que les grandes puissances ont un rôle crucial à jouer, mais qu'elles doivent changer de cap et privilégier la stabilité durable au détriment des logiques de puissance.
En somme, il faut qu'elles arrêtent de jouer aux apprentis sorciers et qu'elles prennent leurs responsabilités pour aider la Syrie à sortir de ce chaos. Est-ce que cela signifie ?
Tout à fait. Il est essentiel de les soutenir et de les accompagner dans leur quête de paix et de stabilité. Leur voix doit être entendue et leurs besoins doivent être pris en compte dans tout processus de résolution du conflit.
Merci beaucoup pour cette analyse si riche et éclairante. J'espère que nos auditeurs ont pu mieux appréhender la complexité de la situation en Syrie et saisir les enjeux cruciaux qui se jouent dans cette région.
Merci à vous pour l'invitation. J'espère également que cette discussion aura contribué à faire avancer la réflexion sur ce sujet crucial.
Et pour conclure cette plongée, une question pour nos auditeurs. Si la Syrie parvenait à retrouver la paix, à quoi pourrait ressembler sa reconstruction? Une question complexe qui mérite réflexion et qui nous rappelle que même dans les situations les plus sombres, l'espoir d'un avenir meilleur doit subsister.
À bientôt pour une nouvelle plongée.